résultats de Radio Astor. Animé par Michael Lassen.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, à vous tous ici présents à Minigout, à l'occasion de la 25e édition du Festival international du film ornithologique, à vous qui nous regardez sur Village TV, et à vous tous aussi, auditeurs de Radio Accor. Le thème de notre émission de ce soir est le suivant: les agrocarburants sont-ils une solution d'avenir? Une solution à quel problème tout d'abord? Au remplacement des énergies fossiles dont notre mode de vie nous rend de plus en plus dépendants. Une solution à la diminution nécessaire des émissions de CO2. Peut-être. C'est ce que nous essaierons de voir au cours de cette émission. Mais il faudra aussi nous poser d'autres questions. Quel impact sur l'alimentation? En effet, pouvons-nous nous permettre de mobiliser des terres pour produire du carburant? Quel impact sur la biodiversité? Quel mode d'agriculture choisit pour produire les agrocarburants? Ce mode d'agriculture est-il nuisible à notre environnement? Pour nous aider à répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Binet. Michel Binet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur retraité de l'Université de Poitiers, enseignant l'énergétique à l'École supérieure d'ingénieurs de Poitiers et la chimie appliquée en licence, master de chimie. Vous êtes également chercheur dans le laboratoire de catalyse en chimie organique et vous êtes également un chroniqueur de Radio Accor avec chargé notamment des émissions sur l'environnement et sur l'université. Précisons que vous êtes ici en tant que pour apporter votre expertise et une expertise indépendante. Nous avons également Dominique Pi. Dominique Pi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes administratrice de France Nature Environnement et pilote du réseau Faune Sauvage. Et nous avons également Gustave Talbot.
Bonjour.
Et vous représentez Poitou-Charente Nature et vous nous apporterez des précisions concernant l'agronomie autour donc des agrocarburants.
Voilà.
Alors, tout d'abord, un petit tour de table pour une question de sémantique. On parle d'agrocarburant, le terme de biocarburant est également employé. Quels sont vos sentiments respectifs sur ce petit débat sémantique? Michel Guinet.
Oui, alors quand on regarde qui emploie agrocarburant et qui emploie biocarburant. Alors qui emploie biocarburant, ben, ce seront donc les parlements français et européens, l'ADEME et les industriels de la filière. D'un autre côté, ceux qui ne veulent pas employer le mot biocarburant et emploient agrocarburant, ce sont évidemment les associations, partis écologistes et beaucoup d'autres personnes. Alors, biocarburant est un terme général, soulignent donc les partisans de ce terme, qui conviendrait aussi bien pour les carburants produits à partir de plantes cultivées qu'à partir de bois, d'algues, de déchets, de graisse animale. C'est un argument. Argument des partisans d'agrocarburant, difficile à réfuter celui-là, il n'est pas admissible de s'appuyer sur l'image positive des produits bio qui sont cultivés sans pesticides pour nommer des produits qui en utilisent. Bien évidemment, c'est à chacun d'entre nous de choisir. Quant à moi, puisque les seuls carburants actuellement sur le marché résultent de la transformation de plantes cultivées de façon intensive, donc avec des pesticides, utiliser le terme agrocarburant qui n'entretient aucune ambiguïté me semble tout à fait naturel.
Dominique Pi.
Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Michel Guinet. Hein. Le terme agrocarburant permet d'éviter la confusion avec l'agriculture biologique pour des cultures qui, on le verra, on en discutera de manière plus approfondie, sont plutôt néfastes à la terre et à la biodiversité.
Gustave Talbot.
Je suis aussi d'accord parce qu'on parle de cultures agricoles, donc le terme apparaît bien compris.
Je voudrais dire que je suis ici en tant que confirmer que je suis ici en tant qu'expert indépendant. Et bon, ce qui signifie que je n'adhère à aucune association écologiste ni à aucun parti et que j'essaye, déjà dans ce que j'ai dit, j'ai essayé, d'être objectif.
Alors, après donc ces précisions sémantiques, essayons de savoir ce que c'est qu'un agrocarburant. Michel Guinet, alors on parle de différentes générations. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce qu'on entend par agrocarburant?
Bien, agrocarburant, bah, tout d'abord, cela veut dire carburant. Alors, comme je vais le préciser par la suite, il y en a de deux types, agro-diesel et agro-alcool. C'est un peu simpliste comme classification, je reviendrai par la suite pour donner quelques précisions. Alors, si je viens maintenant aux agrocarburants, et que je parle de génération, alors les agrocarburants de première génération résultent de la transformation de l'amidon des céréales, blé, maïs, du sucre, des racines de betterave ou des tiges de canne à sucre, et dans tous ces cas-là, on obtient de l'alcool, ou encore de l'huile de colza, tournesol, jatropha, palmier. Donc, et dans ce cas-là, on obtient de l'agro-diesel. Dans tous les cas, donc, cela provient de plantes auparavant utilisées uniquement pour l'alimentation. Alors, les carburants de seconde génération, qui sont jusqu'alors peu développés en France, plus en Allemagne, valorisent la lignocellulose des plantes qui est contenue dans toutes les cellules végétales. On peut donc utiliser des pailles, des tiges, des feuilles, des déchets verts, ou même cultiver des plantes à croissance rapide pour en faire des agrocarburants de seconde génération. Alors en France, il y a, comme vous le savez sans doute, deux projets pilotes d'envergure, un projet nommé Futurol qui a été lancé essentiellement par Total, donc c'est pour l'éthanol, et un projet nommé Beautiful, on pourrait le dire comme ça, ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça, qui a été initié par l'ADEME pour fabriquer, dans ce cas-là, du diesel et du kérosène à partir de résidus agricoles, de coques de tournesol et de petits morceaux de bois. Alors il y a de toute façon, donc en gros, on peut dire pour ces agrocarburants de deuxième génération, il y a deux voies. Ce qu'il faut, c'est évidemment dégrader la matière lignocellulosique. La première voie est la plus intéressante, c'est la dégradation bactérienne, mais il faut bien reconnaître que certains projets utilisent aussi une voie dite thermochimique, c'est-à-dire qu'on va transformer, alors c'est de très vieux procédés ceci, on va transformer donc la matière lignocellulosique en monoxyde de carbone et en hydrogène, ce que l'on appelle le gaz de synthèse, et à partir de ce gaz de synthèse, on peut faire tout ce que l'on veut.
Alors, oui, continuez, mais vous avez précisé, donc à chaque fois, on produit de l'alcool ou des huiles qui peuvent faire du diesel. Il y a ces deux types de carburant.
Non, ici, ce ne sont pas des huiles pour faire le diesel. C'est du gaz de synthèse qui va permettre, en général, c'est cela, du gaz de synthèse, CO plus H2, qui va permettre d'obtenir toutes les molécules que l'on veut, et en particulier du carburant diesel.
Dans le cas des carburants de deuxième génération.
De deuxième génération.
Donc on peut dire trois types de produits qu'on regarde de première ou deuxième génération. Alcool, diesel et ce gaz qui permet de faire des produits de synthèse.
Oui, mais en fait ce gaz n'est pas utilisé tel quel, donc il doit être transformé, ou il peut être transformé soit en produits chimiques, soit encore en produits chimiques qui peuvent avoir une haute valorisation, soit encore en carburant, mais essentiellement donc en diesel, carburant diesel. Oui. On passe au carburant de troisième génération, oui. si tu veux bien. Dans ce cas-là, on va utiliser des microalgues ou cyanobactéries qui, elles, vont présenter un rendement bien meilleur, 30 fois meilleur que les oléagineux terrestres. Donc ça va permettre de fabriquer des huiles. Et ça va être 30 fois meilleur. On peut aussi utiliser des champignons filamenteux du type Trichoderma raeci. Actuellement, donc, les États-Unis, Israël, l'Allemagne, la Chine et aussi la région Poitou-Charentes, ce serait une première mondiale, hein, c'était la première mondiale annoncée telle qu'elle au Vigan, sans doute en avez-vous entendu parler, au Vigan, donc il y a des algues qui, elles sont capables à la fois de donner des huiles et de donner de l'alcool. Donc, deux orientations possibles. Alors, au Vigan, alors, dans tous les cas, il s'agit d'algues ou, donc, comme je l'ai dit, de champignons qui permettent de transformer du gaz carbonique, donc finalement, en matière d'intérêt, donc, comme carburant. Donc c'est évidemment une voie très intéressante. Et au Vigan, cette voie est utilisée, donc le CO2 qui est nécessaire, qui est indispensable et qui va être finalement, qui va disparaître, qui ne servira pas à l'effet de serre, lui donc vient de la décharge du Vigan. À la décharge du Vigan, on produit du méthane, on tire du méthane de la dégradation donc des déchets alimentaires, et ces déchets alimentaires, enfin qui sont avec tous les autres déchets, hein, et de ces déchets, on obtient donc du méthane, et ce méthane est brûlé pour donner de l'électricité ou de la chaleur, et le CO2 qui est libéré va permettre d'obtenir de l'huile ou de l'alcool.
Alors, si je résume, alors, la génération vient, quand on parle de première, deuxième ou troisième génération, est-ce que c'est en fonction de ce qu'on est capable aujourd'hui de faire ou est-ce que c'est en fonction du type de produit utilisé et du type de transformation?
Les deux. Je dirais que, moi je serais assez simple là, je dirais que c'est de mieux en mieux ou de moins en moins mal. Enfin, disons que la dernière catégorie, les agrocarburants de troisième génération, sont eux, finalement, à favoriser, parce que dans ce cas-là, à mon sens, mais évidemment, je suis ouvert au débat, il n'y a pas d'inconvénient à suivre cette voie-là. Alors que dans la première voie, on pourra discuter des inconvénients, et dans la seconde, donc, des inconvénients que vous ne manquerez pas de souligner, c'est qu'on utilise de la matière qui pourrait fertiliser la terre.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord un peu sur l'analyse que vient de faire Michel Guinet, des premières générations qui sont peu intéressantes pour l'environnement et une troisième génération qui peut soulever des espérances?
Sur les premières générations, il faut souligner que dans Poitou-Charentes, nous n'avons pas de canne à sucre, à ma connaissance, donc nous travaillons les agrocarburants à partir du blé et du maïs, dont le rendement était dit est peu important. Alors, et les biodestères à partir du colza et du tournesol. Il y a des expériences, enfin, des expériences plus que ça, il y a des agriculteurs qui font leur propre carburant. Donc c'est une possibilité et c'est assez simple à faire à partir de l'huile de colza, à condition de modifier un peu du moteur. L'autre inconvénient qui me paraît important de souligner, c'est que les agrocarburants prennent la place déjà chère que nous avions.
On en parlera aussi tout à l'heure.
Voilà. Et pour les deuxièmes générations, l'inconvénient effectivement de prendre la plante entière, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser les pailles sur le champ pour faire de l'humus, eh bien, nous n'aurons plus d'humus, donc le problème de fertilité des sols.
Alors, je voudrais vous demander à Michel Guinet, comparé aux carburants qu'on utilise actuellement, le diesel et l'essence, est-ce qu'ils ont des performances équivalentes pour faire fonctionner les automobiles? Est-ce qu'ils consomment plus? Est-ce qu'ils consomment pareil? Est-ce qu'ils entravent les moteurs? Enfin, quelles sont leurs qualités par rapport aux carburants qu'on utilise aujourd'hui?
Yeah, mais je vais d'abord parler du carburant diesel. Donc, en ce qui concerne le carburant diesel, bon, il faut savoir que si on prend le carburant diesel, le diesel d'origine fossile, donc en tout cas, le nombre de carbone est entre 10 et 20. Ce qui fait la qualité de ce carburant diesel, c'est ce que l'on appelle l'indice de cétane. C'est un peu technique. Indice de cétane, cétane c'est une molécule linéaire avec 16 atomes de carbone. Ce qui est intéressant pour la carburation diesel, c'est d'avoir des molécules linéaires et surtout pas d'aromatiques, d'hydrocarbures aromatiques. Donc c'est cet indice de cétane qui, dans nos carburants diesel, est de l'ordre plus grand que 50, de l'ordre de 51, peut se retrouver, et c'est là où est l'aspect séducteur des agrocarburants, peut se retrouver sans difficulté à partir de la transformation donc des graines de colza, de tournesol en huile, puis ensuite dans ce que l'on appelle l'ester. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une huile de colza? Donc en fait, c'est composé donc de molécules qui ont, alors voilà ici 1, 2, 3, c'est la chaîne correspondant à un trialcool, le glycérol. Et lié à chacun de ces carbones, il y a de longues molécules linéaires. Ce qui fait que si on élimine ce que l'on appelle la glycérine, le glycérol, et ce que l'on fait par estérification de l'huile, on va récupérer en fait les molécules linéaires. les molécules linéaires qui, dans la molécule initiale d'huile, étaient sous forme d'acide, disons, pour simplifier, sont transformées en esters. À ce moment-là, quand on a enlevé la glycérine, l'ester qui est utilisé, qui est obtenu, va avoir un indice de cétane de l'ordre de 51. Donc, satisfaire aux exigences.
On peut dire que les agrocarburants diesters, comme on dit, sont équivalents au diesel produit à partir d'hydrocarbures.
Pas tout à fait, mais presque. Donc, on verra que... On verra dans l'étude de l'ADEME, si on en parle un peu tout à l'heure, qu'il y a quelques petites différences.
Bien. Alors, concernant donc les alcools.
Alors, pour les alcools, c'est quand même très différent. Alors, les alcools, donc, vous savez, les alcools, on les met dans l'essence. On pourrait les utiliser seuls, c'est ce qui a été fait au Brésil pendant de nombreuses années, hein, depuis très longtemps au Brésil. Hein. L'alcool, c'est l'éthanol, celui que l'on boit. Donc cet alcool, il est évidemment très différent de l'essence. Une essence, c'est des hydrocarbures allant de 4 à 10 atomes. L'alcool n'est pas un hydrocarbure, il y a de l'oxygène qui va jouer un rôle effectivement dans cet alcool. Alors en ce qui concerne la qualité du carburant, vous le savez tous, c'est l'indice d'octane. Alors l'indice d'octane d'un carburant, le carburant que vous prenez, par exemple le meilleur carburant, le super, donc, va avoir un indice d'octane plus grand ou égal à 95, souvent atteignant 98. Je n'entre pas dans le détail, il y a en fait deux indices d'octane différents. Dans le cas de l'alcool, l'indice d'octane est également très élevé. Donc, en ce qui concerne finalement cet aspect, l'indice d'octane, l'alcool convient très bien. Mais il y a des inconvénients. Premièrement, l'alcool n'a qu'une seule tendance désagréable à capter l'eau. Et vous savez bien que si vous avez de l'eau dans votre moteur, cela pose quelques problèmes. Deuxièmement, l'alcool n'est pas très volatile. Et en fait, l'alcool en France ne convient pas très bien aux pétroliers. Ce qui fait que les pétroliers ont décidé de transformer l'alcool dans un éther, en faisant une réaction entre l'alcool, l'éthanol, donc, et l'isobutène, un hydrocarbure avec 4 atomes de carbone. Et ça s'appelle donc l'éthyl-tertiobutyl-éther, qui a des propriétés beaucoup plus intéressantes et qui ne pose pas de problème au niveau du moteur. Mais on y reviendra tout à l'heure, il y a évidemment d'autres problèmes qui vont se poser, notamment l'aspect énergétique.
Alors concernant les gaz que vous avez évoqués tout à l'heure et puis les produits de synthèse qui peuvent en être dérivés, est-ce que là on peut s'attendre à des performances équivalentes, meilleures?
Alors là c'est bien connu, hein, si on prend effectivement la voie thermochimique qui n'est pas très économique, hein. Donc la voie thermochimique qui n'est pas du tout économique je dirais même, hein, est employée depuis très longtemps, était employée pendant très longtemps en Afrique du Sud. Dans l'usine Sasol, où vous savez que l'Afrique du Sud, il y avait un blocus du temps de l'apartheid, et donc il n'était pas question que de la fournir du pétrole. Et donc ils se sont débrouillés, puisqu'ils avaient beaucoup de charbon, à transformer ce charbon en gaz de synthèse, et à partir de ce gaz de synthèse, on obtient donc une variété de molécules chimiques, mais également des carburants.
Alors concernant ensuite donc les modes de fabrication, donc il y a de l'énergie, qui est employé pour produire ces différents agrocarburants. Est-ce que l'énergie employée est supérieure ou suffisamment faible pour rendre intéressante donc la production de ces agrocarburants?
Bien, alors moi je vais, pour vous répondre, parler de l'étude de l'ADEME, la dernière étude de l'ADEME, que l'ADEME a confiée en fait à un organisme, ce n'est pas une étude directement de l'ADEME. Il s'agit dans ce cas-là donc de définir non seulement l'aspect énergétique, mais également il y a d'autres critères, le critère effet de serre, le critère oxydation photochimique, le critère toxicité humaine et le critère eutrophisation. C'est quelque chose de complexe. Évidemment, cette étude est complexe et il y a surtout beaucoup de valeurs qui sont introduites dans le modèle qui mériterait d'être vérifié parce que ces valeurs, on ne les a pas de façon fiable. Bien, alors je vais répondre à la question sur l'aspect énergétique. Alors, il y avait un autre rapport, celui de 2002, fait par l'ADEME, mais il faut reconnaître qu'on peut se demander, et là je parle de façon assez impartiale, hein, même très impartiale, on peut se demander si ce rapport n'était pas un peu téléguidé. Celui qui est venu aujourd'hui est bien moins bon pour les agrocarburants et, à mon avis, reflète une certaine vérité, même si, comme je l'ai dit, les conclusions sont toujours à prendre avec précaution. Alors, quand je dis que ça reflète une certaine vérité, c'est pour les agrocarburants français. Alors, pour l'aspect énergétique, l'aspect énergétique se chiffre par le rendement entre l'énergie donc produite, disponible dans l'agrocarburant, et l'énergie non renouvelable qui est consommée. Alors, si on prend, alors il est bien de comparer aux fossiles, aux énergies fossiles. Si je prends pour l'essence fossile, le rendement est un peu supérieur à 0,8. Si je prends pour l'éthanol venant du blé ou du maïs, il est de l'ordre de 1,7, toujours selon l'ADEME, sauf pour la canne à sucre, où il est de 5,5. Problème que je vous avais souligné tout à l'heure, les pétroliers, et ils n'ont peut-être pas tort, ne souhaitent pas utiliser l'alcool dans leur carburant. Ajouter l'alcool dans leur carburant, ils préfèrent de loin l'éthyl tertiobutylétaire. Alors, quand on passe à l'éthyl tertiobutylétaire, à ce moment-là, le rendement est de 1. C'est-à-dire que l'on produit autant d'énergie que l'on en a consommé. Il était de 1,22 en 2002. Donc, si on peut conclure pour au niveau de l'éthyl tertiobutylétaire que ça n'est vraiment pas très rentable. Même si l'ADEME essaye d'être très diplomate dans ses conclusions sur ce point. Alors, en ce qui concerne le diesel, c'est beaucoup plus favorable. Alors, le carburant diesel, toujours pareil, c'est le rendement est seulement de 0,8. Fossile, hein. L'ester, donc l'agro-ester, venant des plantes que nous utilisons ici, c'est-à-dire colza et tournesol, est de l'ordre de 2,3. Mais si on prend l'huile, et si on ne passe pas, si on ne transforme pas l'huile en agro-ester, à ce moment-là, le rendement est bien meilleur, 4,3. En tout cas, cela veut dire que c'est tout à fait acceptable comme rendement énergétique pour les agro-esters, mais que c'est bien meilleur au niveau de l'huile et que c'est une filière qu'il faudrait favoriser. Mais il y a des inconvénients, peut-être que je les cite dès maintenant, il y a des problèmes sanitaires au niveau des tourteaux. J'ai oublié de dire tout à l'heure que lorsque l'on fabriquait un agrocarburant, quel qu'il soit, il y avait des sous-produits et certains sous-produits étaient intéressants. Dans le cas de l'agro-ester, il y a les tourteaux. Tourteaux qui vont servir pour l'alimentation animale et qui pourraient remplacer le soja que l'on apporte. Dans le cas du blé, il y a les drèches de blé. Bon, donc finalement, il y a des aliments pour les animaux.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les agrocarburants, tant pour leur performance pour les véhicules que pour les performances énergétiques, mis à part ceux qui ont des taux de rendement donc assez faibles, ils pourraient tout à fait remplacer, alors sans parler des problèmes environnementaux qu'on va évoquer tout à l'heure, mais sur le plan simplement technique, ils pourraient tout à fait remplacer les carburants à base d'hydrocarbures que l'on fabrique aujourd'hui.
Je pense que oui, ma réponse est très positive en ce qui concerne l'huile. Elle est un peu moins positive en ce qui concerne les agro-esters, mais cela reste toutefois positif.
Alors, venons-en maintenant, par exemple, au niveau des émissions de CO2. Alors, est-ce que...
Émissions de gaz à effet de serre.
Les gaz à effet de serre,
parce qu'en fait, ce n'est pas tellement le CO2 qui va être en cause. Hein.
Alors, quel est le gaz qui est en cause, justement, dans les agrocarburants?
Le gaz qui est en cause, c'est le protoxyde d'azote, un peu oublié, en tout cas très sous-estimé, lors de la première étude de l'ADEME de 2002. Cette fois-ci, les chiffres qui sont utilisés sont plus réalistes, même si l'ADEME prend à nouveau des précautions en ce qui concerne la validité de ces chiffres.
Alors, concernant le CO2, par exemple, est-ce que le mode de fabrication entraîne une consommation de CO2 qui rendrait inintéressante, de ce point de vue-là, les agrocarburants?
Alors, si on parle du CO2, c'est surtout le CO2 est surtout dégagé au niveau donc des machines agricoles utilisées donc pour la production du colza, du blé, etc. Mais surtout au niveau du transport, au niveau du transport et surtout au niveau de la combustion. Quand je donne les chiffres que je donne, c'est maintenant ça va être après combustion. Alors si on parle de gaz à effet de serre, on parle en équivalent CO2. Alors il faut savoir que le N2O, le protoxyde d'azote, lui, il est 300 fois plus mauvais pour la température de la planète, pour l'effet de serre, que le CO2. Le méthane, dont on a parlé un peu tout à l'heure, hein, lui, il est 23 fois, un effet de serre 23 fois plus élevé que le CO2. Donc il est évident que si on sous-estime un minimum au niveau du protoxyde d'azote, à ce moment-là, ou si on surestime, tous les résultats que je vais donner, les résultats de l'ADEME que je vais donner, vont être modifiés. Alors, je donne les résultats en ce qui concerne l'effet de serre, en grammes de CO2 par mégajoule produite. Alors, pour l'essence fossile, d'origine fossile, 102 grammes. Pour l'éthanol de betterave, 27 grammes, de blé, 44 grammes. Et pour l'éthyl tertiobutylétaire, 50 et 66. Cela dépend l'origine finalement donc de l'éthanol, s'il vient de la betterave ou s'il vient du blé. La conclusion, c'est que cela satisfait tout juste aux règles pour l'éthyl tertiobutylétaire, puisque la règle européenne, dont nous n'avons pas parlé pour l'instant, c'est qu'il faut un gain, diminution de la production en équivalent CO2, de 35%. Or, si je prends le chiffre de 66 à comparer à 102, les 35%, ils sont tout justes. Et je dois dire, mais j'aimerais que ce soit confirmé, peut-être pourrez-vous le confirmer, Madame Pi, que ce chiffre de 35%, c'est pour 2010, jusque 2010. Mais qu'à partir de 2013, cela devrait passer à une diminution donc, de la quantité de CO2 de 50%. Et à ce moment-là, à moins que l'on ne modifie les règles, l'éthyl tertiobutylétaire venant donc des agrocarburants ne conviendrait plus.
Alors, est-ce que Dominique Pi, vous pouvez apporter cette précision?
Je vais ajouter un petit complément, c'est-à-dire que ce que vient de dire Michel Guinet, ça concerne la production d'agrocarburants à partir des plantes. Si on veut faire le bilan complet de toute la chaîne, il faut aussi inclure l'affectation et l'éventuel changement d'affectation des sols où sont plantés ces agrocarburants. C'est-à-dire que dans les zones tempérées, on va voir le bilan qui vient d'être indiqué. Si on considère maintenant les zones tropicales dans lesquelles, pour planter les agrocarburants, on va commencer par déforester et supprimer les forêts vierges et les forêts primaires, là, ces forêts primaires sont en fait d'excellents stockeurs de carbone, ce qui fait que les remplacer par de l'huile de palme, par exemple, va présenter un bilan extrêmement négatif. Hein. Les études ont montré qu'il y a un bilan négatif de 160 tonnes de carbone à l'hectare qui est émis donc parce qu'on a supprimé une forêt primaire avant de replanter des agrocarburants. Donc ça change quelque peu le bilan global de la filière.
Vous avez raison de souligner ce point. Je crois qu'il sera discuté en détail dans la seconde partie. C'est un point extrêmement important. Il peut concerner un peu aussi l'agriculture française, c'est-à-dire que si vous regardez autour de vous, lorsque l'agriculture intensive se développe, et elle se développe plus lorsqu'il y a développement d'agrocarburants, on détruit beaucoup de haies. Si vous regardez les kilomètres de haies qui ont été supprimés lors du développement de l'agriculture intensive, et regardez encore maintenant les haies qui disparaissent. Donc c'est finalement donc une destruction qui est évidemment beaucoup plus modérée que dans les pays tropicaux, mais qui est non négligeable et qu'il faudrait prendre en compte.
On va en parler. Gustave Salvo, comment est-ce que sont fabriqués régionalement, par exemple, les agrocarburants sur le plan agronomique?
Alors, ils sont fabriqués, ils prennent souvent la place chez nous, en tout cas, ce qui était les jachères jusqu'à l'année 2008. Et donc, c'était un des inconvénients parce que les jachères étaient un puits de carbone, d'une certaine manière, au sens où ils le stockaient. Et le fait qu'on les retourne, on le déstocke, ce qui s'ajoute, parce que la plante elle-même, en gros, c'est nul, hein, je crois, M. Guinée. On récupère du CO2 en faisant pousser le blé, puis on va le remettre après quand il est dans le carburant. Mais par contre, on déstocke ce qui était dans les sols. Ça, il faut dire. Un deuxième aspect qui est très gênant, c'est l'intensification que vous avez souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que nous allons, tout le monde sait sur le plan agronomique, que des circuits, des assolements longs sont favorables. C'est-à-dire qu'on fait succéder des plantes sur 5 ans, 7 ans, 9 ans, c'est encore mieux, différentes. Auquel cas, il y a moins de développement de parasites, il y a moins de développement d'adventices et il y a moins de développement également de maladies. Or, le système agrocarburant nous fait aller vers des assolements extrêmement courts. Puis on va être du blé-blé, colza, blé-blé, colza, tournesol, au mieux. Et là, il y a de gros soucis sur les pesticides, en général, aussi bien sur les maladies, sur les parasites que sur le désherbage. Et donc, avec des conséquences que ça va avoir également sur l'eau. Nous sommes déjà dans une région où nous avons des soucis en la matière. Donc, c'est le gros inconvénient que je souligne sur le plan agronomique, c'est bien ce phénomène, c'est que nous allons des assolements extrêmement courts.
Dominique Py, vous avez parlé tout à l'heure donc des zones tropicales. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les zones sur lesquelles il y a de plus en plus de cultures consacrées à la production d'agrocarburants et quel impact ça a sur ces zones qui sont soit des zones forestières, peut-être ou des zones qui étaient consacrées à l'agriculture vivrière?
Alors, dans les zones tropicales, on va avoir bien sûr des plantes qui sont des plantes adaptées aux climats tropicaux, hein, qui vont servir à faire des agrocarburants. Donc, on ne retrouvera plus le colza ou la betterave, mais ce sera pour l'essentiel de l'huile de palme, donc provenant de plantations de palmiers à huile, ou bien de la canne à sucre, et également dans une certaine mesure du soja. Alors, si vous regardez sur une planisphère quelles sont les zones favorables à ce type de culture, il se trouve malheureusement que ça va coïncider avec les zones qu'on appelle les hotspots de biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hotspot de biodiversité? Ce sont les zones de la planète dans lesquelles on a à la fois le plus fort taux d'endémisme, c'est-à-dire des espèces qui ne vivent que dans cette région et nulle part ailleurs dans le monde, et des espèces les plus menacées. Donc un hotspot, c'est à la fois un fort taux d'endémisme et beaucoup d'espèces menacées. Donc clairement, ce sont les zones pour lesquelles on a des enjeux de conservation de la biodiversité qui sont extrêmement élevés, puisqu'ils concentrent un grand taux de biodiversité. Donc ces zones, si on regarde sur la planète, on va retrouver les zones tropicales essentiellement, donc Amérique centrale et Amérique latine. On va retrouver l'Afrique tropicale, hein, le centre de l'Afrique, et également dans les zones tempérées, la Méditerranée et le Proche-Orient, mais là c'est un petit peu moins concerné. Et puis en Asie, ça va être l'Asie du Sud-Est, essentiellement l'Indonésie, la Malaisie, ce type de région. Donc ces zones qui sont des zones de hotspot de biodiversité, donc pour lesquelles on devrait faire le plus grand effort de conservation, se trouvent être aussi malheureusement les zones qui sont favorables à ces types de cultures, à ces agrocarburants. Et donc le développement des agrocarburants a entraîné le développement de ces cultures et donc la destruction des milieux naturels associés à ces milieux et notamment une déforestation importante.
Michel Guinée, vous vouliez réagir?
Oui, il y a tout petit point sur lequel je n'ai pas assisté. J'ai dit que l'éthyle tertiobutylétaire, donc au niveau gaz à effet de serre, était très mauvais, sauf s'il vient de la canne à sucre, encore une fois. Donc, rien n'empêche nos pétroliers, puisque ce sont eux qui font l'éthyle tertiobutylétaire, d'importer de l'alcool venant des pays tropicaux. Donc, on retombe donc sur le problème que vous venez de souligner. Et c'est vrai également au niveau de l'huile. Donc, certainement, j'ai vaguement entendu parler ces jours-ci d'huile de palme qui arrivait en France. On importe de l'huile de palme pour les agro-SR. Alors, je voudrais quand même donner, avant de vous laisser la parole, je voudrais quand même donner les chiffres pour le diesel, pour dire que dans ce cas-là, les problèmes n'existent pas au niveau des gaz à effet de serre. Tout au moins, les règles de la communauté européenne sont respectées. Alors, le diesel fossile, c'est 96 grammes de CO2. Quand ça vient du colza, donc l'agro-SR, 38. Et 26 quand ça vient du tournesol. Et pour lui, c'est 35. Donc, ça dépasse largement les 35% obligatoires.
Donc, vous avez parlé des pays tropicaux et concernant notre zone tempérée, l'Europe, quel impact sur l'utilisation des terres?
Je reviens un petit peu, si vous permettez, sur les palmiers à huile pour compléter un petit peu le tableau dans les pays tropicaux. Hein. Alors d'abord, un premier petit bémol qui est de dire donc ces plantations de palmiers à huile et de canne à sucre ne servent pas exclusivement aux agrocarburants. Hein. Donc le palmier à huile notamment, il a aussi des usages alimentaires, il sert à la fabrication de cosmétiques et de lubrifiants. Donc c'est pas uniquement pour faire des agrocarburants qu'on plante des palmiers à huile. Mais une partie y sert, et clairement la demande est plutôt en train d'augmenter, et donc on peut penser que le développement de ces espèces va s'en suivre. Et d'autre part, on ne peut pas dire non plus forcément que c'est la plantation de palmiers à huile qui entraîne la déforestation, parce que les choses ne sont pas si claires. Dans certains cas, il y a d'abord déforestation et ensuite plantation de palmiers à huile. Donc voilà, le lien est un petit peu plus complexe. Mais ce qu'on peut dire ensuite sur l'effet de ces plantations, hein, faut rappeler en premier lieu qu'une forêt tropicale, c'est un milieu qui est extrêmement complexe, avec une grande variété d'arbres, donc d'espèces d'arbres, mais aussi d'âge d'arbres, de hauteur d'arbres. Hein, c'est un milieu étagé dans lequel, à chaque niveau, en fait, on a une sorte de microclimat différent, que ce soit au niveau du sol, au niveau intermédiaire des arbres ou dans la canopée. À chaque fois, on a des conditions différentes et donc des espèces spécifiques qui sont adaptées. Vous n'allez pas retrouver les mêmes insectes au ras du sol, au milieu et au niveau des feuillages. Donc, milieu complexe, milieu donc avec beaucoup d'espèces, très riche, qu'on va remplacer, bien sûr, quand on le remplace par de l'huile de palme ou par de la canne à sucre, par un milieu extrêmement simplifié, hein, c'est ce qu'a dit Gustave Talbot tout à l'heure, c'est des milieux simplifiés, et donc on va faire disparaître nécessairement les espèces qui sont associées à la forêt tropicale. Hein. Il y a des études qui commencent à être faites, ça, au début ça n'intéresse pas beaucoup les chercheurs maintenant, il y a des études qui commencent à être faites, qui montrent que quand on remplace une forêt par une culture conduite en monoculture, hein, on va retrouver environ entre 60% et 80% d'espèces en moins dans cette culture. Et ce qu'on va retrouver, ça sera plutôt des insectes, c'est-à-dire que des espèces comme les oiseaux, les mammifères, qui ont des exigences écologiques plus fortes, vont avoir quasiment totalement disparu. Donc on retrouve moins d'espèces, et la différence n'est pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les mêmes espèces dans les deux types de milieux, et notamment les espèces les plus menacées, les espèces les plus spécialisées, vont disparaître au profit d'espèces plus généralistes, plus ubiquitaires, voire des espèces envahissantes ou des espèces considérées comme des pestes, donc qui vont remplacer ces espèces très riches. Hein. Et alors, pour essayer de remédier à cette difficulté-là, les agronomes ont essayé de proposer des aménagements des plantations, donc je vois par exemple de réintroduire des plantes épiphytes pour favoriser le retour des insectes. On s'aperçoit que c'est pas efficace en fait. Donc les méthodes d'aménagement des pratiques culturales pour rendre ces plantations plus favorables à la biodiversité n'ont pas un effet vraiment important. Et ce qu'il faudrait faire si on veut encore préserver la biodiversité qui reste dans ces forêts tropicales très riches, hein, c'est qu'il faut réussir à préserver des îlots de forêt au milieu des cultures. C'est-à-dire, bon, les monocultures, on a tendance à, en général, ça remplace tout sur des kilomètres et des kilomètres. Il faudrait pouvoir réussir à préserver des îlots de biodiversité et des connexions entre ces îlots si on veut pouvoir préserver un petit peu
concernant la France et l'Europe.
Alors, concernant la France et l'Europe, là, c'est un petit peu différent, bien sûr, puisqu'on ne va pas déforester. Il n'y a plus de forêts vierges, de milieux primaires en Europe. Par contre, il y a, dans les zones de grande culture, la PAC a mis en place en 1992 des zones de jachère obligatoires, alors qui n'avaient au départ, bien sûr, pas un but environnemental. Hein, c'était pour répondre à des problèmes de surproduction. Donc, on obligeait les agriculteurs à conserver 5 ou 10% de leur terrain en jachère. Et ces jachères qui n'avaient pas été créées dans un but environnemental se sont avérées avoir un effet très positif parce que justement elles échappaient aux cultures intensives, hein, aux engrais, aux pesticides. Elles étaient soit laissées en friche, soit utilisées pour faire des cultures à moindre rendement. Elles se sont avérées, notamment dans les zones de grandes cultures céréalières, des zones de refuge pour la biodiversité. Où on retrouvait encore, ben, notamment par exemple des abeilles, des pollinisateurs qui avaient été détruits par les pesticides alentours, qui peuvent s'y retrouver, ou bien des oiseaux qui ont des exigences écologiques particulières. Je prendrai l'exemple de l'outarde cadmetière, qui est bien connu dans le Poitou-Charentes, parce qu'il en reste encore, donc une espèce d'oiseau qui est migratrice et qui a besoin de couverts herbacés à la bonne hauteur, à la fois pour faire ses parades de reproduction, et puis pour élever les jeunes. La femelle a besoin de se cacher dans les hautes herbes, et elle a besoin d'insectes pour élever ses jeunes. Donc, pour soutenir, donc c'est une espèce qui est en voie de disparition, hein, dont le nombre de couples a chuté de manière dramatique depuis 20 ou 30 ans, à cause de l'intensification de l'agriculture. Donc les jachères, si vous voulez, étaient un moyen d'offrir des refuges à ces outardes. Notamment, bon, la LPO a pas mal travaillé là-dessus, pour mettre en place des programmes, pour favoriser cette espèce. Ce qui se passe, malheureusement, c'est que les cultures industrielles de type de celles qui servent aux agrocarburants ne sont pas comptabilisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent, ce type de culture peut être fait sur les jachères. C'est-à-dire que les jachères visaient à résoudre les problèmes de surproduction alimentaire. Mais comme les agrocarburants ne sont pas à destination alimentaire, les agriculteurs avaient la possibilité de faire pousser ces plantes sur les zones de la chair. Et donc ça s'est considéré comme quelque chose de dramatique pour les gens qui s'efforçaient de sauver l'outarde ou ces espèces, parce que bien sûr, si on remplace une jachère, une friche, par des agrocarburants, là, c'est plus du tout un milieu qui est favorable à l'outarde, et donc ça pose des problèmes graves à ces zones. Pour vous donner juste une idée, il y a 1 million d'hectares de jachère en France, et puis les cultures énergétiques en 2006 occupaient déjà 790 000 hectares de cette surface. Hein, donc il reste vraiment plus de
2 millions en 2010.
Voilà. Alors, Gustave Talbot, est-ce que pour produire des agrocarburants, étant donné qu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser plus de pesticides ou plus d'engrais ou de dépasser certaines normes communes dans le reste de l'agriculture?
Non, je n'en vois pas l'intérêt, parce que l'objectif du RADEM, c'est bien de diminuer de 50% l'utilisation des pesticides, donc on va plutôt faire l'inverse. Là. Donc ça ne me paraît pas être de ce point de vue une bonne politique. Je voudrais également ajouter sur le plan du désherbage. On a tous plus ou moins entendu parler du développement de l'ambroisie chez nous. C'est une plante qui est de la même famille que les tournesols, et donc si on multiplie la production de tournesols avec des rythmes courts, là aussi des seulement courts, l'ambroisie va continuer de nous envahir. On va développer cet aspect. Un autre aspect que je voudrais souligner, c'est pour peut-être l'aborder peut-être plus tôt dans la deuxième partie, c'est la forêt. Je suis vraiment étonné qu'on ne parle jamais de la forêt qui est en France sous-exploitée. Alors que la forêt, quand on la laisse mourir, elle produit du méthane avec des inconvénients qui étaient soulignés tout à l'heure. Alors que son exploitation raisonnable permet au contraire de stocker du CO2 quand elle est en croissance. Parfois, on peut développer cela tout à l'heure.
Oui, Michel Guinet, sur la forêt, on utilise parfois des résidus de la forêt dans les carburants de deuxième génération, je crois.
Tout à fait, oui. C'est prévu d'utiliser donc ces résidus et également donc des plantes cultivées de façon intensive pour les agrocarburants de seconde génération. Je complète un peu son propos. En fait, il faut bien voir qu'il y a quand même un débouché alimentaire. Ce sont les tourteaux. Alors, je me pose la question, c'est vrai qu'on peut suspecter que lorsque l'huile ne va pas être utilisée pour l'alimentation, il ne va pas y avoir beaucoup de contrôle et que l'on peut utiliser comme on veut les pesticides. Donc, ça pourrait être très dangereux parce que ces pesticides se retrouveront dans les tourteaux, essentiellement d'ailleurs dans les tourteaux, et ensuite vont se retrouver dans les animaux qui est au bout de la chaîne alimentaire. Et ce serait très dangereux pour
nous. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, par contre, le rendez-vous n'est pas terminé. Je donne rendez-vous donc aux auditeurs de Radio Accor dès demain soir pour la suite de ce débat sur les agrocarburants. Et nous aurons un nouveau plateau de constitué avec la présence notamment de Marc Pouzin pour le comité catholique contre la faim et pour le développement et de Marie Legrand, vice-présidente de la région Poitou-Charentes. Merci à vous trois donc, de nous avoir éclairés sur la question des agrocarburants.